Alors, bon matin à vous tous et un grand merci à Elios et toute l'équipe. Ces beaux chants de louanges qui nous inspirent, qui nous préparent pour le ciel. Dieu merci pour sa grâce. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles ce matin et trouver le 9e chapitre de Romains, Romains chapitre 9. Et ce matin, comme d'habitude, nous continuons notre étude systématique de cette merveilleuse épître qui est si riche, tellement de grandeur et de bonne vérité qui se trouve dans l'épître de Paul aux Romains. Quelques-uns l'ont intitulé « La plus grande lettre qui ait jamais été écrite ». Et comme vous le savez, la dernière fois, nous étions en train de, comme je dis souvent, savourer la parole de Dieu dans Romains chapitre 8. On a regardé ce texte et ce chapitre culmine avec cette promesse monumentale que nous trouvons dans les versets 28 et 29, à propos de la sécurité éternelle du croyant, où Paul s'exclame que rien, absolument rien, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et cela nous amène au Romains chapitre 9. Si vous savez compter, 9 suit 8, bien sûr. Et dans ce texte ici, Paul va changer complètement de sujet. Il va commencer à parler de la nation d'Israël, les Juifs. Et la question qu'on pourrait se poser ce matin, pourquoi est-ce qu'il fait cela? Qu'est-ce qui motive Paul de tout d'un coup, après avoir parlé longuement sur la justification par la foi, il va maintenant parler de la nation d'Israël. Il y a deux éléments de réponse à cette question. Je vous mets dans le contexte pour nous aider à mieux comprendre ce que nous allons lire ce matin. Alors, dans un premier temps, Paul anticipe une question brûlante que ses lecteurs vont lui poser à propos d'Israël. Et la relation d'Israël avec Dieu à cause de la situation qui prévalait en Israël lors de la rédaction de l'Épître. Quand Paul écrivait cette Épître aux Romains, il y avait une certaine situation qui prévalait en Israël parmi les Juifs à l'époque. Et ça va susciter une question, une grande question. Israël, en tant que groupe ethnique et national, à l'époque de Paul et encore aujourd'hui, était caractérisé par l'incrédulité. Le peuple qui avait reçu les alliances, les promesses en tant que nation, était loin d'être la nation glorieuse qu'elle avait été jadis. Ce peuple dont de qui le prophète Jérémie avait prophétisé dans Jérémie 31-33 en disant, et c'est Dieu qui parle, « Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans le cœur, je serai leur Dieu, et ils seront plutôt mon peuple. » Mais contrairement à cela, ce peuple a été dans l'incrédulité et comme le texte implique que nous allons lire ce matin, sous l'anathème et même séparé de Dieu, un peuple qu'on pourrait qualifier comme perdu. Alors la question logique se pose alors. Si il est ainsi avec Israël, le peuple d'alliance, est-ce que cela voulait dire que Dieu n'avait pas tenu ses promesses à leur égard? Est-ce que les promesses de Dieu à l'égard d'Israël avaient échoué? Ça, c'est la question. Et si tel était le cas, les lecteurs de cette lettre pourraient aussi poser une autre question. Comment est-ce que nous allons savoir que Dieu ne nous laissera pas tomber aussi? Bref, pouvons-nous fier aux belles promesses de Dieu, surtout celles qui se trouvent dans Romains chapitre 8, où Paul déclare que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, que nous avons été appelés, nous avons été justifiés, nous avons été glorifiés, que Dieu nous aime et rien ne peut nous séparer de son amour. Alors, que ferons-nous avec ces belles promesses si la parole de Dieu a échoué à l'égard d'Israël? Très bonne question. Et Paul va répondre à cette question, cette interrogation, dans Romains chapitre 9, à partir du verset 6. Si vous jetez un coup d'œil à ce texte, vous allez voir que le texte dit « Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. » Il commence là, son argumentation, puis il va prendre trois chapitres pour répondre à cette question. Est-ce que Dieu est fidèle à ses promesses à propos d'Israël? Ça, c'est le pourquoi de Romains 9, 10 et 11. Mais il y a aussi une autre problématique dans ce texte devant nous ce matin. Vous savez, on dit souvent que le messager est son message, voulant dire que ce qu'on véhicule, on le devrait vivre aussi. Et dans le contexte, quelqu'un, un croyant juif ou païen, pourrait avoir, en lisant Romains chapitre 1 à 8, où Paul expose justement la doctrine de la justification par la foi, quelqu'un qui lisait ce texte pourrait avoir l'impression que Paul est anti-juif, qu'il n'aime pas les juifs. Rappelons-nous que dans le chapitre 2, je n'ai pas besoin d'y tourner, mais Paul va critiquer et reprendre sévèrement le juif de non seulement. Il dit, toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu. Et là, il va étaler devant eux toute leur hypocrisie. Tu dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Tu as une abomination des idoles, mais tu commets des sacrilèges. Et tu blasphèmes le nom de Dieu et blasphèmes à cause de vous parmi les païens. Parce que vous transgressez la loi. Alors, il semble que Paul est assez sévère et quelqu'un, on peut dire, mais il ne les aime pas, il les a blastés. Et deuxièmement, le judaïsme qui caractérisait la nation d'Israël, Paul aussi y attaquait cette doctrine en le démontrant maintenant que Christ étant venu, que nous n'étions maintenant, ils n'étaient plus sous la loi, et ce qui était important, c'était la justification par la foi sans les œuvres de la loi. Deux clous, parmi tant d'autres dans le cercueil des Juifs. Et imaginez alors la réaction des croyants à Rome. Ils pourraient dire à Paul, tu nous parles de l'amour de Dieu pour nous. Dans Romains chapitre 5, tu as dit, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et Paul, pourtant, quand on lit cet épître, il semble que toi, Paul, tu manques d'amour. Comment pouvons-nous croire à ton message si toi, le messager, ne vis pas ce que tu prêches? Et ça, c'est la raison pour Romains chapitre 9, les versets 1 à 5. Que nous allons lire maintenant. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, des juifs, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Et j'ai intitulé mon message « Un amour authentique ». Et le thème, c'est l'amour sincère de Paul pour Israël. Et ce matin, j'aimerais vous donner quatre preuves, quatre évidences qui nous révèlent l'amour de Paul, l'amour profond que Paul avait pour les Juifs, pour ses frères, pour les Israélites, et qui va lui donner la crédibilité maintenant aux yeux des païens à qui il est en train d'écrire. Il va démontrer de façon extraordinaire jusqu'à quel point il est authentique. Le messager et son message vont ensemble. Alors, dans un premier temps, Paul va démontrer son amour pour les Juifs, pour l'Israël, par sa sincérité. Il va révéler cela, démontrer cela par sa sincérité. Regarde encore au verset premier. Le texte nous dit ceci: « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. » Avez-vous remarqué comment est-ce que Paul va marteler justement sa sincérité? Je dis la vérité. Après, il va dire la même chose, mais de façon négative. Je ne mens point. Et après ça, il fait appel à sa conscience. Ma conscience m'en rend témoignage. Et non seulement cela, pour démontrer que ce ne sont pas juste des paroles en l'air, Paul va faire appel à deux personnes de la Trinité. Il fait appel à Christ, il fait appel aussi au Saint-Esprit pour donner justement du poids à ce qu'il est en train de dire. Alors tout d'abord, il va invoquer le nom de Christ pour appuyer ce qu'il est en train de dire, pour dire aux Romains à qui il est en train d'écrire, ce que je vous dis, là, c'est la vérité. Et pourquoi est-ce qu'il fait cela? Parce que vous savez que Christ, c'est la vérité incarnée. Jésus-Christ a dit lui-même dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et en invoquant justement le nom de Christ, Paul veut dire à ses lecteurs qu'il est en train de dire la pure vérité. Donc, si vous voulez, la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Quel homme sincère, transparent, authentique, un homme qui ne ment point, un homme qui n'ose pas mentir, un homme qui n'oserait pas mentir, puisque cela ferait Christ complice de ses mensonges. Et ce serait un déshonneur pour le nom de Christ. Et Paul était toujours soucieux, tout à travers son ministère, de démontrer cette véracité, cette authenticité à propos de son ministère et la façon dont il propageait l'Évangile. Il y avait eu des problèmes dans l'église de Corinthe. Paul y a goûté dans cette église. Il l'accusait même de ne pas être un apôtre. Et il va leur écrire dans 2 Corinthiens 1, 23, « Je prends Dieu a témoin sur mon âme. Et là, il va l'exposer, il va défendre son apostolat. Il y avait aussi des gens de la Galatie qui ont été troublés par la fausse doctrine. Et Paul va leur dire dans Galates 1:20, « Dans ce que je vous écris devant Dieu, je ne mens point. » Alors, voilà un homme qui n'a pas peur. Il n'a pas peur d'appeler Dieu comme témoin de ce qu'il dit parce qu'il sait qu'il dit la vérité. Alors, il fait appel à Christ pour appuyer ce qu'il dit. Et deuxièmement, il va faire appel aussi à sa conscience. Le texte dit ceci, « Ma conscience m'en rend témoignage. » J'ai un autre témoin, Paul dit, c'est ma conscience. Et dans ma conscience, je suis convaincu et je sais que je dis la vérité. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va ajouter un autre témoin à cela. Je vous dis la vérité, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Alors, il appelle cette fois-ci comme témoin le Saint-Esprit pour démontrer que ce qu'il dit est vrai. Et pourquoi est-ce qu'il dit cela? Parce que aussi l'Esprit, selon Jean 14, 17, c'est l'Esprit de vérité. L'Esprit, c'est l'Esprit de vérité. Et c'est ici Paul fait attention de faire cela parce que notre conscience est une bonne guide, c'est un bon guide, mais seulement quand notre conscience est sous le contrôle du Saint-Esprit. On peut se fier à notre conscience, mais faire attention, il faut que notre conscience soit sous le contrôle du Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul y ajoute cela, par le Saint-Esprit. Dans le texte pour illustrer cela, c'est dans Hébreux chapitre 10 au verset 22. Il n'y a pas besoin d'y tourner, mais le croyant est exhorté de s'approcher. Le texte dit ceci, « Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. » Ou si vous voulez, dans la plénitude de la parole ou rempli de la parole. Approchons-nous, le texte dit, dans la plénitude de la foi avec un cœur sincère. Et c'est quoi le lien ici entre la plénitude de la foi? Mais la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, quelqu'un qui s'approche de Dieu avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, il s'approche de Dieu, dans la plénitude de la parole de Dieu. Et quand quelqu'un vit dans la plénitude de la parole de Dieu, mais sa conscience est contrôlée par la parole de Dieu, et en ce moment-là, on peut faire confiance à notre conscience. Et c'est pourquoi Paul invoque justement, ici, il dit, « Ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. » Et le lien est là. Parce que l'homme ou la femme de Dieu qui est rempli de la parole de Dieu est contrôlé par la parole de Dieu. Et quand vous êtes contrôlé par la parole de Dieu, vous êtes contrôlé aussi par l'Esprit Saint. Les deux vont ensemble. Montrez-moi un homme et une femme qui est rempli d'esprit et je vous montrerai un homme et une femme qui est rempli de la parole. Et celui ou celle qui est rempli de la parole, sa conscience est contrôlée par le Saint-Esprit. Alors, Paul peut invoquer alors sa véracité. On dit, ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit parce qu'il est contrôlé par le Saint-Esprit. Alors, la question maintenant qu'on se pose, pourquoi est-ce que Paul commence comme cela? Qu'est-ce qu'il veut prouver? Le fait qu'il dit la vérité, que sa conscience est sous le contrôle du Saint-Esprit, qu'est-ce que Paul veut démontrer? Mais Paul veut démontrer tout d'abord qu'il est un homme qui est rempli d'amour. Je vous donne deux raisons pour cela. Dans 1 Corinthiens 13, 6, nous dit ceci, « L'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. » Alors Paul, en commençant sa lettre en disant, « Je vous dis la vérité, j'appelle Christ comme témoin, ma conscience aussi me rend témoignage. Je suis un homme qui dit la vérité et l'amour est le caractéristique de quelqu'un qui dit la vérité. 1 Corinthiens 13, 6. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Alors celui qui est rempli de la vérité, celui qui dit la vérité et qui ose appeler Christ comme témoin et le Saint-Esprit, c'est un homme qui est rempli d'amour. On a un exemple dans la parole de Dieu de Abraham et sa femme Saraï à l'époque. Et Abraham s'en va en Égypte et sa femme est belle de figure. Vous connaissez, vous rappelez l'histoire. Et qu'est-ce qu'Abraham fait? Il va mentir pour dire à sa femme, dis que tu es ma sœur parce que je veux vivre. Quand les Égyptiens ils vont te voir, tu es belle de figure, ils vont me tuer, ils vont te prendre. Mais est-ce que c'est un homme qui était rempli d'amour ou bien un homme qui est égoïste? Il pense plus à lui-même. Et on voit que jusqu'à quel point il y a un écart. Parce qu'en pensant à lui-même, il est égoïste, il n'est pas rempli d'amour. Et en étant égoïste, qu'est-ce qu'il fait? Il dit un mensonge. Et deuxièmement, un homme ou une femme dont la conscience est contrôlée par le Saint-Esprit, comme nous avons vu avec Paul, est une femme ou un homme qui est rempli d'esprit. Et quand vous êtes rempli d'esprit, vous êtes rempli de l'amour. Paul, il dit, ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. Ma conscience est sous le contrôle du Saint-Esprit. Et quand vous êtes sous le contrôle du Saint-Esprit, qu'est-ce que le Saint-Esprit produit en vous? Le fruit de l'Esprit, Galates 5, 22, c'est l'amour. Alors, Paul commence ici tout de suite en disant à ses Romains, je veux que vous sachiez que je suis un homme authentique, vrai. J'ai un amour profond et je vous donne justement des preuves de cela. Christ est mon témoin, le Saint-Esprit, ma conscience est mon témoin. Et tout cela, c'est à cause de l'amour. J'aimerais faire une application ici ce matin. Et vous savez, toujours dire la vérité, c'est pas facile. Des fois et parfois, souvent, quand on est dans des situations où est-ce que même en tant que chrétien, un mensonge ou une demi-vérité, en anglais on dit un white lie, une moitié, une petite grise un petit peu, là, qui pourrait nous faire sortir du pétrin. Vous savez, c'est un péché. Et peut-être ce matin, quelques-uns ici, vous luttez avec cela depuis quelque temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait en ce moment-là? Qu'est-ce qu'on fait justement pour vaincre le péché du mensonge? Mais tout d'abord, comme tout péché, il faut commencer avec la confession. La Bible nous dit si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mais j'aimerais aussi vous suggérer, si pour vous c'est une problématique, deux choses. Dans un premier temps, la prière, je pense ici à Psaume 51, verset 12, où David va devant l'Éternel et il va prier ainsi, « Ô Dieu, créez en moi un cœur pur. » Ça pourrait être une prière et ça devrait être la prière de celui ou celle qui a des difficultés avec justement cette problématique, le mensonge. Créer en moi un cœur pur. Et ça, c'est une prière que Dieu va entendre et exaucer. Et ensuite, non seulement la prière, mais aussi la parole. Parce que la parole de Dieu est puissante. Elle change les cœurs, elle change les attitudes. Et si on veut combattre et vaincre justement cette problématique, il faut avoir la parole de Dieu comme une épée, une arme. Justement, pour nous donner la victoire. Je vous donne quelques textes qui nous parlent justement de l'importance de dire et toujours dire la vérité. Ce sont des versets clés que quelqu'un qui veut justement remporter la victoire devrait apprendre, mémoriser, les serrer dans le cœur. Lévitique 19, 11. Vous n'userez ni de mensonges, ni de tromperies les uns envers les autres. Colossiens 3, 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Proverbe 12, 22. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Et Éphésiens 4, 25. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon croit la vérité à son prochain. Et vous savez, le Seigneur Jésus-Christ a dit une parole qui est tellement importante dans Jean 17, 17. Quand il a prié à son Père, il a dit, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. » Et quand la parole de Dieu est dans notre cœur, et quand il est serré là, ça produit justement du fruit, la sanctification. Et montrez-moi quelqu'un qui progresse dans la sanctification, qui progresse dans la parole de Dieu, et je vais vous montrer quelqu'un qui est en train d'avoir la victoire sur le péché, y compris justement le péché du mensonge. Alors, juste une petite exhortation ce matin pour vous encourager. Et deuxième application sur le plan collectif. Vous savez, nous avons une grande vérité à proclamer, la parole de Dieu, l'Évangile, et nous devrions la proclamer. Mais quand nous faisons cela, est-ce que notre message d'amour est véhiculé par des messagers d'amour? Paul, il pouvait dire à ses Romains, écoute, je suis authentique. Je ne mens point. Je vous dis la vérité. Et la vérité, comme je dis, caractérise, c'est une caractéristique de quelqu'un qui est rempli d'amour. Alors, Paul démontre son amour pour, justement, la nation d'Israël par sa sincérité. Mais deuxièmement, Paul va aussi démontrer son amour par ses sentiments. Il va démontrer son amour par ses sentiments. Regardez votre texte au verset 2. Il va dire ceci, « J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. » Vous voulez avoir les sentiments profonds? Les voilà. Un sentiment de tristesse et de chagrin, Paul dit, qui habite son cœur. Et vous savez, on entend souvent dire que bon, l'amour, c'est plus que les sentiments. Ça ne donne rien de dire à ton épouse et à ton mari, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Puis tu ne fais jamais rien pour le prouver. Et c'est ce que 1 Jean 3, 18 nous dit. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Mais j'aimerais vous dire aussi qu'un amour authentique, un amour profond, est accompagné de sentiments. Et plus que l'amour est profond, plus les sentiments sont profonds. Je vous donne des exemples ici. Vous rappelez de Joseph et de Benjamin. C'est le contexte. Et ses frères sont venus en Égypte pour acheter du blé. Et Joseph a dit, là, quand vous allez revenir la deuxième fois, vous ne verrez pas ma face si votre frère n'est pas avec vous. Alors, ils finissent par convaincre Jacob de laisser partir Benjamin. Et là, il arrive en Égypte devant Joseph. Et rappelez-vous que Benjamin, c'est le frère de Joseph, son vrai frère. Les autres sont ses demi-frères, ils n'ont pas les mêmes mères. Mais Benjamin et Joseph sont issus de Rachel, la femme que Jacob aimait. Et quand Joseph voit son frère, le texte nous dit ceci, après de longues années de séparation, ses entrailles, et vous savez, les Hébreux voyaient ça comme le siège des émotions, les tripes. Ses entrailles étaient émues pour son frère et il avait besoin de pleurer. Un grand amour pour son frère et ça a produit des sentiments. Jésus-Christ aussi est un autre exemple. Cet homme extraordinaire, fils de Dieu, quand il se promenait, le texte nous dit qu'il a vu la foule devant lui, abattue. languissante, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et le texte nous dit qu'il fut ému. Ça l'a saisi dans ses tripes de compassion, justement, pour elle. Et au tombeau de Lazare, on voit aussi une autre expression de ses sentiments. Les sœurs Marie et Marc sont dévastées. Lazare est mort quatre jours déjà dans le tombeau, en décomposition. Et le texte nous dit que Jésus, ému de compassion. Et le texte dit simplement, Jésus pleura. Et quelle était la réaction des Juifs? Voyez comment il aimait. Voyez le lien. Amour, aimer, produit des sentiments. Et Christ aussi a démontré ses sentiments profonds à propos de celui qu'il aimait. Et Paul, ici, dans notre texte, révèle son amour profond pour les Juifs, pour la nation d'Israël, en ayant un cœur rempli de tristesse et de chagrin, tellement Paul est touché par leur situation. Je vous donner juste quelques définitions. Le mot tristesse veut dire douleur, peine, affliction. C'était utilisé dans le grec pour des personnes qui sont en deuil. Et le mot chagrin peut dire aussi tourment ou souffrance. Et Paul est en train de dire à ses lecteurs, j'éprouve justement des sentiments de peine, de douleur, d'affliction. Je suis dans la souffrance parce que je vois cette nation-là, Israël, dans une condition piteuse. Et vous savez, plus que notre amour est grand, plus notre souffrance est grande quand notre objet d'amour est affecté. Et je vous donne les exemples ici de quelques hommes de Dieu qui avaient justement ce fardeau. Je pense ici au grand prophète Jérémie. Dieu avait révélé justement à Jérémie à cause de l'apostasie qui prévalait en Israël qu'il allait justement juger cette nation. Et Jérémie, c'est un homme avec un cœur sensible. Écoutez bien ce qu'il dit dans Jérémie 8, 21. « Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la détresse. L'épouvante me saisit. » Il y avait un fardeau pour ce peuple parce qu'il voyait justement la condition du peuple. Dans Lamentations 3:48, il va dire ceci, « Des torrents d'eau coulent de mes yeux à cause de la ruine de la fille de mon peuple. Mon œil se fond en larmes, sans repos, sans relâche, jusqu'à ce que l'Éternel regarde et voie du haut des cieux. » Et aussi, Néhémie était un homme semblable. Quand on lui a dit que Jérusalem a été brûlée, les murailles étaient en ruine, ses portes étaient consumées par le feu, il dit ceci, « Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation, et je jeûnais, et je priais devant le Dieu des cieux. » Et finalement, l'exemple par excellence, le Seigneur Jésus-Christ, Luc 19, 41, nous dit que quand il s'approchait de la ville de Jérusalem, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour, si qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. » Jésus savait exactement ce qui s'en venait pour ce peuple et il était touché, brisé en dedans. Matthieu 23, 37 nous révèle le chagrin de son cœur quand il a dit, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme une poule qui rassemble un poussin sur ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. » Christ avait des sentiments aussi profonds, profonds pour justement la désolation et la situation misérable de son peuple. Et vous savez, en me préparant pour ce texte, ce texte m'a beaucoup interpellé. Et j'ai dû confesser devant Dieu que je n'éprouve pas cette vive compassion, cet amour profond pour ceux qui m'entourent, qui sont comme Israël, séparés de Dieu. sans espérance et sans Dieu dans le monde, Éphésiens 2:12. Et comme je dis, nous avons une responsabilité d'évangéliser les incroyants. Matthieu 28:19 nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, et nous le faisons. Et je remercie le Seigneur pour les efforts qui ont été faits, mais il fallait que je me pose la question. Et je vous la pose aussi en toute sincérité ce matin. Qu'est-ce qui motive nos efforts dans l'évangélisation? Est-ce qu'on évangélise parce qu'on veut avoir une grande, une grosse église, 400, 500, même 1000 personnes? Est-ce que nous évangélisons parce qu'on va apaiser notre conscience, parce que si on ne le fait pas, on va se sentir coupable? Ou bien est-ce que nous évangélisons parce que nous avons un amour profond, authentique pour les perdus? Et ma prière pour vous et pour moi, c'est que le Seigneur nous remplisse tellement de son amour. Ça, c'est la clé, d'être rempli de l'amour de Christ. Vous savez, il y avait un homme en Écosse, John Knox, qui avait tellement un fardeau pour l'Écosse, qui est allé devant Dieu, il a crié, « Donne-moi l'Écosse ou je meurs! » Que le Seigneur suscite parmi nous des hommes et des femmes qui vont crier, « Donne-moi le Québec ou je meurs! » Et qu'il en soit ainsi pour sa gloire. Et je termine avec ceci. J'avais 4 points, mais on va terminer. On va laisser le 4e. Juste le 3e maintenant. Paul révèle son amour pour Israël par sa sincérité, ses sentiments, mais aussi son attitude de sacrifice. Paul y a ici une attitude de sacrifice à l'égard de ses frères et de ses parents. On peut avancer, s'il vous plaît. Il va dire ici dans le texte au verset 3, « Je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. » Je vous donne juste la définition, le mot anathème. Anathème veut dire, c'est une translittération. Ça vient directement de la langue originale. Un mot qui veut dire ce qui est livré au malheur, une chose qui est dévouée à une divinité sans espoir de rachat, un animal destiné à être tué, une personne ou une chose vouée à la destruction, un homme maudit voué au malheur. Entre numéro 3, on peut avancer, s'il vous plaît. Et dans le contexte ici, ce serait Paul exprime ce sentiment comme s'il dit, moi, je voudrais être voué à la destruction dans l'enfer, d'être séparé de Christ pour l'éternité. Je suis prêt à me sacrifier jusqu'à ce point-là. Et vous savez qu'on sait tous que c'est une impossibilité. Deux raisons pour cela, Romains 8:39. On vient de le voir la dernière fois. Paul va dire aux chrétiens, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, etc., etc. Aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, c'est impossible. Et deuxième chose, c'est à cause de ce que Paul est. Malgré le fait que c'est un grand apôtre, malgré que c'est quelqu'un qui brûle d'amour, malgré que c'est quelqu'un qui a un ministère extraordinaire, Paul est quand même un pécheur. Il va le dire dans Timothée. C'est une parole entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Et Psaume 49:8 nous dit ceci, ils ne peuvent se racheter l'un ou l'autre ni donner à Dieu le prix du rachat. Alors, c'est impossible. Paul, même s'il aurait voulu, il ne pouvait pas justement être anathème et séparé de Christ, prendre la place justement des Juifs, parce qu'eux, ils sont séparés, ils sont sous l'anathème à cause de leur incrédulité. Mais on voit le désir de son cœur. Alors, c'est une impossibilité parce qu'il y a juste un seul, le Seigneur Jésus-Christ, le seul, le Fils de Dieu, comme nous avons vu ce matin. l'agneau qui est digne, à l'agneau qui est digne de ce qui était possible de nous racheter. Je vous lis le texte 1 Pierre 1:18-19. Vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ comme de l'agneau sans défaut et sans tache. Mais la question se pose, est-ce que Paul est un hypocrite? Est-ce que ce qu'il dit ici ce matin est juste pour impressionner les Romains? Paul est tout à fait conscient de l'impossibilité du geste qu'il voudrait poser. D'ailleurs, la version anglaise New American Standard traduit ce texte comme ceci. « Je pourrais souhaiter d'être moi-même anathème et séparé de Christ. » Mais ce que Paul veut démontrer ici, c'est que les sentiments profonds d'amour est prêt au sacrifice. Et même si ce serait possible d'aller jusqu'au sacrifice ultime. Et vous l'avez dans la vie de Christ. Il n'y a plus dire, il n'y a plus de grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ça, c'était justement la profondeur de l'amour de Jésus-Christ pour vous et pour moi. Mais Paul est prêt justement à aller jusqu'à ce point. Et je termine avec juste ceci. Quelle preuve? Parce que Paul, il commence ici, comme je vous ai dit, il faut qu'il démontre qu'il n'est pas anti-juif, qu'il les aime, ses frères. Et il a donné justement ces trois preuves. Il y a un quatrième, et on va laisser ça pour le moment, pour démontrer qu'ils aiment et même il est prêt à se sacrifier pour eux. Et si vous lisez les Actes des Apôtres, vous allez voir que c'est un homme qui était prêt au sacrifice. Et qu'est-ce que Paul a enduré? Toutes les persécutions et toutes les souffrances et toutes les choses difficiles pour répandre l'Évangile. Et je pense que j'ai un texte ici qui résume justement son ministère. Il a dit dans Philippiens chapitre 2 au verset 17, en parlant justement de son ministère, « Même si je sers de libation, pour le service et pour le sacrifice de votre foi, je m'en réjouis. » Et quelle mentalité extraordinaire. Un homme qui était prêt à se sacrifier pour l'Évangile. Alors, c'est un homme vrai, pas un homme authentique. Un homme qui connaissait l'amour de Christ. Et Paul n'est pas un superman sur homme. Pourquoi est-ce qu'il est comme cela? Parce que Paul s'abreuve à la fontaine d'amour. Ce que vous voyez dans la vie de l'apôtre Paul est un reflet de ce qui est dans le cœur de Christ. Et parce que Paul est connecté à son Sauveur, l'amour de Christ le remplit et est déversé envers les autres. Il pourrait bien dire « Ma coupe est remplie, ma coupe est pleine et elle déborde d'amour. » Et quel exemple pour nous à imiter. Et si ce matin, vous ne connaissez pas Christ comme votre sauveur personnel, laissez-moi vous dire une chose, vous ne pouvez jamais, jamais aimer, ni aimer Dieu comme vous devrez le faire, ni aimer votre semblable, dans le vrai sens du mot. La parole de Dieu nous dit que nous aimons Dieu, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et c'est ça qu'il faut commencer. Si on veut imiter Paul, il faut commencer là à voir l'amour de Dieu en nous pour qu'on soit capable de donner aux autres. Et ma prière pour vous ce matin, si vous ne connaissez pas le Christ, c'est que vous irez à la croix. Et là, vous allez voir un exemple de l'amour, un amour qui s'est sacrifié, quand Christ a donné sa vie pour vous et pour moi. Quand le sacrifice pour lui n'était pas trop grand, il a dit... Personne ôte ma vie. Je donne de moi-même. J'ai le pouvoir de donner. J'ai le pouvoir de le reprendre. Et parce qu'il nous a aimés, parce qu'il vous a aimés, parce qu'il m'a aimé, Paul a pu s'exclamer, le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et ça, c'est là que ça commence. Et après cela, rempli de l'amour de Christ. Et à chaque jour, s'abreuvant dans cet amour, on peut aller répandre la bonne nouvelle aux autres. Et vous savez une chose, notre message concorderait avec le messager.
quand nous sommes remplis d'amour de Christ. On va prier. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Et je te demande maintenant de prendre ces paroles, ta parole qui a été dite, et de l'appliquer avec puissance à nos cœurs. Nous vivons dans un monde, Seigneur, qui est dévasté, un monde qui est appauvri, un monde qui a besoin de voir l'amour de Christ en nous. Et c'est ma prière pour moi et pour mes frères et mes sœurs, que tu nous remplisses, Seigneur, de ton amour, afin que nous soyons de ceux qui apportent ce message d'espérance, ce message à ceux qui sont en train de se perdre, comme Israël, sous l'anathème, est perdu, mais avec amour. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, pour ta gloire. Et s'il y a quelques-uns parmi nous qui ne te connaissent pas, Seigneur, touche leur cœur, ouvre leurs yeux. Fais-leur boire justement à cette fontaine d'eau vive, afin qu'ils puissent goûter que l'Éternel est bon, et qu'ils puissent repartir d'ici ce matin, rempli de ton amour, et en train aussi de se réjouir avec cette mission, Seigneur, de partager ce que tu as fait pour nous aux autres. Bénis-nous, Seigneur, et sépare-nous avec ta bénédiction. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen.